Voilà. Alors, bienvenue à cette matinée de travail, d'études autour de Saint-Marc. Alors, quand on m'avait demandé l'année dernière de prévoir un titre, j'avais mis avec Saint-Marc « Contempler le visage souffrant de Jésus ». Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais peut-être d'une manière un peu inattendue. Et en fait, on va procéder en trois moments de durée plus ou moins inégale, ou franchement inégale. Une première partie d'introduction de ma part, introduction un peu générale à l'Évangile et à sa composition. C'est pour ça que sur la feuille que je vous ai donnée, il y a ce joli petit schéma avec l'espèce de pyramide qui nous montre un petit peu comment on peut regarder l'Évangile selon Saint-Marc. Et puis ensuite, il y aura des temps de travaux un peu en groupe pour que vous puissiez travailler un peu l'Évangile vous-même. J'expliquerai. Puis après, il y aura un temps de reprise, de mise en commun et puis de prolongement avec moi. Voilà. Pour ce qui est de l'Évangile, là, je vous ai mis donc la composition de l'Évangile. Si vous regardez ce que j'ai mis comme conclusion à la droite de la pyramide, conclusion, chapitre 16, versets 1 à 8. Alors, vous allez me dire, mais il y a un problème, c'est que l'Évangile, selon saint Marc, il y a des versets 9 à 20 au chapitre 16. Bon. La difficulté, c'est que, vous trouvez ça dans toutes vos notes de Bible, c'est que les plus anciens manuscrits de l'Évangile selon saint Marc s'arrêtent au verset 8. Et des manuscrits un peu plus récents, pas beaucoup plus, ont ce qu'on appelle une finale longue. En fait, il y a plusieurs finales longues, des finales très longues. Enfin voilà, c'est un peu une bouteille d'encre, cette question de la finale de Marc. Donc, il n'y a pas à douter, on va dire, de la canonicité de ces versets. La difficulté, c'est qu'on peut montrer assez facilement que ces versets, 9 à 20, ces 12 derniers versets de Marc, ne sont pas de la main de l'auteur de tout le reste de l'Évangile. Et que donc, vraisemblablement, au départ, l'Évangile selon saint Marc a été écrit s'arrêtant, de manière un peu brutale, au verset 8 du chapitre 16. Donc c'est le récit de la résurrection. Voilà. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Bon, point de suspension. C'est un peu surprenant, en effet, que cet évangile se termine en queue de poisson, mais justement, la manière dont ça se termine va nous indiquer un petit peu quelque chose de ce pourquoi c'est fait. Il y a quelque chose d'un peu ironique, c'est que le 25 avril, dans la liturgie, on fête la fête de Saint-Marc. Et que lit-on pour l'évangile de la fête de Saint-Marc? Eh bien, justement, les versets 9 à 20 de l'évangile selon Saint-Marc. Donc, finalement, des versets qui ne sont pas de la main de Saint-Marc, de l'auteur de l'évangile. Voilà, c'est un peu ironique, un peu paradoxal. Voilà. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde l'évangile selon Saint-Marc, c'est que c'est un évangile relativement court. Quand on le lit comme ça, en 1h15, et en prenant son temps, ça peut être lu. Il y a quelques années, à Notre-Dame-de-Vie, on avait fait venir le diacre Étienne Dallaire, qui avait fait une proclamation de cet évangile dans une soirée, avec juste un petit intermède musical entre chaque chapitre. Et voilà, donc on avait pu entrer dans la complétude de cet évangile. Parce qu'il y a quand même une difficulté, c'est que quand on écoute l'évangile dans la liturgie, on a des tranches de saucisson qui sont très bonnes chacune, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'ensemble, la construction d'ensemble. Et donc il y a justement un bénédictin belge, Benoît Standart, qui a travaillé cette question-là. Il a publié sa thèse dans les années 70. Et je me suis beaucoup inspiré de lui là pour la feuille que je vous ai indiquée, avec notamment la composition de l'évangile. Voilà. Et donc, il élabore une hypothèse intéressante, c'est que l'évangile selon saint Marc est fait vraisemblablement à cause de sa brièveté, pour être lu, pour être proclamé, évidemment. Quand je dis lu, c'est pas simplement la lecture personnelle pour la prière, mais lu dans un cadre liturgique, en une seule fois, d'une seule traite. Et il fait l'hypothèse que c'est conçu pour être lu à la vigile pascale, hein, et qu'il y a une dimension baptismale très forte dans l'évangile selon saint Marc. Mais évidemment, quand on a les tranches de saucisson séparées, on se rend pas compte de cette du côté massif de la dimension baptismale de l'évangile. Et donc l'hypothèse que fait Benoît Standert, c'est que l'évangile selon saint Marc a été rédigé dans les années 60 de notre ère, du premier siècle de notre ère, à Rome, pour servir d'évangile pour la vigile pascale des premiers chrétiens de Rome. Et un évangile dans lequel on accompagnait les catéchumènes, les futurs baptisés, au baptême. Voilà. Et je trouve que cette manière de regarder l'évangile est très éclairante. Hein, ça donne vraiment quelque chose. Parce que quand on lit l'évangile selon saint Marc, on a l'impression, et ça a été c'est très ancien dans les études sur saint Marc, que c'est un peu un pot-pourri sans beaucoup d'ordre, et qu'il a mis à la suite les événements de la vie de Jésus. Et en fait, quand on regarde, eh bien, il y a une composition assez structurée. Et justement, on peut y voir deux points de vue, deux manières de considérer notre évangile, soit comme un discours, soit comme un drame à l'antique, un peu comme une pièce de théâtre, on pourrait dire. Et justement, là, dans le premier tableau avec la pyramide, vous voyez les parties, intitulées introduction, narration, argumentation, dénouement, conclusion. Cette ligne-là, ce sont les parties du discours. Et la ligne en dessous, prologue, nouement, moment crucial, catastasis, catastrophe, épilogue. C'est la manière de découper l'évangile, avec un découpage d'un drame antique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux découpages, qui normalement correspondent à des manières de s'exprimer différentes, eh bien, se recoupent. Et ça, c'est intéressant. Donc, quand on regarde la première ligne sous la pyramide, on commence par l'introduction. L'introduction du récit, qui commence en fait avec le baptême de Jésus. Tiens, c'est drôle. On veut accompagner des gens vers le baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Et par quoi va-t-on commencer ? Par le moment où Jésus, lui, reçoit ce baptême. Le moment où Jésus vit cette immersion dans le Jourdain. Et le premier verset de l'évangile, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous donne en fait le sujet du discours. C'est le titre. Le premier verset, c'est le titre. Et ensuite, eh bien, on met en place les rapports de Jésus, puisque c'est le sujet du discours, hein, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et la situation de Jésus par rapport à Jean-Baptiste et à l'histoire du salut, avec la citation d'Isaïe, qui est en fait un patchwork de citations de l'Ancien Testament, pas simplement Isaïe. Et puis ensuite, on met aussi la situation de Jésus par rapport à Dieu, hein, puisque au moment du baptême, la voix de Dieu se manifeste en disant « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi je me complais ». En plus, la conclusion, elle se vit au tombeau avec les saintes femmes. Hein, donc la conclusion, on va dire, originale, parfois on appelle ça la finale brève, qui sera l'évangile de notre vigile pascale cette année. Oui, l'année dernière, quand on a eu le confinement, j'ai vécu les jours saints à la paroisse à Saint-Didier, en tout petit comité. Et si on avait été l'année où on lit Saint-Marc, je pense que j'aurais proposé aux personnes qui étaient avec moi de faire cette lecture suivie de l'évangile pendant la vigile pascale. Mais je ne sais pas si elles auraient accepté. Vous voyez à quoi vous avez échappé? Voilà. Et là aussi, on a un personnage un peu mystérieux, un jeune homme vêtu de blanc, alors qu'au début on avait Jean-Baptiste vêtu de poils de chameau. Jean-Baptiste introduisait Jésus, et le jeune homme va introduire ou réintroduire Jésus dans un nouvel état qui est son état de ressuscité. Donc encore un messager. C'est un point final au processus de la mort de Jésus. Et il y a un changement en fait qui se passe dans ce passage de l'Évangile, c'est que Marie, Madeleine et les saintes femmes viennent oindre le corps de Jésus. Mais ce corps a disparu. Elles viennent compléter tout le rituel de la mise à mort et de l'ensevelissement de Jésus, mais elles ne peuvent pas le faire. Leur projet était comme de conserver dans la mort le corps de Jésus. Et voilà que, surprise, il y a un jeune homme qui est porteur d'un message. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Et ce message du jeune homme récapitule tout l'Évangile. Vous cherchez Jésus le Nazarénien. Tiens donc. Or, au début, quand Jésus arrive pour se faire baptiser, on nous dit bien qu'il vient de Nazareth. Le crucifié, c'est ce qu'il a vécu la veille, la mise à mort. Et ensuite, cette double annonce, il vous précède et vous le verrez. Alors évidemment, le jeune homme s'adresse aux femmes. Mais dans une proclamation liturgique, il y a toujours un double discours. Il y a ce que le lecteur raconte, le message du jeune homme aux femmes, ou le message de Jean-Baptiste qui est à ceux qui viennent se faire baptiser, mais qui, en définitive, avec l'usage de la deuxième personne du pluriel, vous, s'adresse aussi, est transmis par le lecteur à ceux qui écoutent. Donc il vous précède, c'est pas simplement les saintes femmes ou les disciples, mais c'est aussi ceux qui écoutent liturgiquement ce texte. Et dans le baptême de Jésus, eh bien, que se passe-t-il? Là aussi, quand Jean-Baptiste arrive, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint. Vous, les gens qui écoutent Jean-Baptiste, mais vous, l'assemblée chrétienne, qui écoute dans la vigile pascale le lecteur liturgique proclamer cela, et qui s'adresse d'une manière toute particulière à ceux qui, au cours de cette même vigile pascale, recevront le baptême. Voilà. Et donc, voyez, on a deux messagers, un au tout début, et il est explicitement présenté comme tel avec la citation d'Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager », c'est le verset 2 du chapitre 1, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, il préparera ton chemin. » Et le messager, en grec, c'est angelon, angelos, pardon, c'est l'ange. Donc, évidemment, on peut pas concevoir que Jean-Baptiste soit un ange, mais il est un messager. Il est là pour. Voilà. Et ensuite, le reste de l'Évangile, donc du chapitre 1, verset 14, jusqu'à la mise au tombeau, chapitre 15, verset 47, eh bien, on peut distinguer trois parties. Parfois même on en distingue six qui se regroupent deux à deux. La première partie que j'ai intitulée « Narration ». Dans un discours antique, on commence toujours par, entre guillemets, raconter une histoire, exposer les faits. Et de fait, la première partie de l'Évangile correspond bien à cette manière de faire. On voit Jésus qui prêche, on voit Jésus qui guérit, qui avance, qui voilà. Et c'est une présentation, on va dire, assez lisse, assez linéaire, avec quand même quelques moments de tension qui sont intéressants. Voilà. C'est la préparation en récit de ce qui va se passer ensuite. Ensuite, le centre de l'Évangile, la partie B, de 6, 14 à 10, 52, c'est le centre de l'Évangile. C'est un moment important puisqu'en fait, c'est là où vont se nouer le rapport de Jésus avec ses disciples. Ses disciples qui sont appelés à le suivre. Parce qu'un des grands thèmes de l'Évangile, selon saint Marc, c'est véritablement celui de suivre Jésus. Ça commence avec l'appel des premiers disciples et ça se, le, comment dire, tout le thème est filé, entretenu, hein, jusqu'à un moment important. On le verra tout à l'heure. Et on traite fondamentalement, dans l'argumentation, de l'identité de Jésus. Qui est Jésus ? Et on arrive au sommet de l'Évangile, chapitre 8, verset 27. C'est la profession de foi de Pierre. Enfin, quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, le Messie. Donc, toute la première partie, hein, c'est arriver à reconnaître Jésus comme Christ. Et une fois que Jésus est reconnu comme Christ, eh bien, il faut aller plus loin. Il faut aider les disciples à faire tomber leurs idoles, à ce que le Christ qu'ils imaginent, le Christ qu'ils attendent, eh bien, n'est pas celui qui est arrivé. Et que Jésus est bien Christ, il est bien Messie, mais d'une manière un peu paradoxale. Et donc, c'est toute la deuxième partie de l'argumentation. Qui est Jésus ? Et quelles vont être les implications de cette identité de Jésus pour le disciple? Et ensuite, les chapitres 11 à 15, la dernière partie de l'évangile, c'est le ministère de Jésus à Jérusalem, et c'est là en fait où tout va basculer. Puisque tout ce qui aura été préparé avant va se jouer là. Avec deux parties, deux sous-parties, on va dire dans cette partie C, les chapitres 11, 12, 13, un ministère de Jésus à Jérusalem, on va dire ordinaire, et puis les chapitres 15, 14 et 15, qui sont la passion proprement dit, ce que nous entendrons demain dans l'Évangile. Donc voyez, une sorte de discours, un récit où on essaye de nous montrer qui est Jésus, hein, jusqu'à le reconnaître comme Christ et Fils de Dieu, et à accueillir la bonne nouvelle de sa résurrection. Quand on regarde l'évangile de saint Marc comme un drame, c'est-à-dire comme presque comme une pièce de théâtre à l'antique. Là, j'ai sorti Médée de Ripide, et quand on regarde la structure d'un drame antique et la structure de l'évangile, eh bien, il y a des points de comparaison. Alors, je ne dis pas que l'évangile est une pièce de théâtre, hein, je ne dis pas que c'est un mythe, mais ça va, la structure du texte se recoupe. Un drame, ça commence toujours par un prologue, une introduction. Souvent, c'est fait par un personnage qui disparaît ensuite, ou alors, c'est le cas dans Médée, par le cœur. Vous savez, le cœur antique qui exprime, qui sert un peu de fil narratif. Que fait ce prologue ? Donc toujours les 13 premiers versets, on nous présente le protagoniste du drame, le personnage principal. Qui est-il ? C'est Jésus, et qui va être présenté successivement par Jean-Baptiste, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint, par la voix du Père, « Voici mon Fils, mon bien-aimé », et dans son rapport à l'Esprit-Saint, puisque, à peine baptisé, que fait Jésus ? Il est poussé dehors au désert par l'Esprit-Saint. Et en plus, on nous dit qu'il est mis à l'épreuve par Satan. Et donc déjà, dans ce prologue, on voit que la question qui est importante, c'est l'identité de Jésus. Qui est-il ? Mais aussi l'épreuve qu'il va subir. Parce que dans un drame, il y a toujours une tension. Une tension qui est produite par divers effets dramatiques. Effectivement, dans l'Évangile, on comprend bien que la question de la trahison, de l'abandon des disciples, de ce Messie paradoxalement humilié, eh bien, c'est là que va se jouer la tension du drame. Voilà. Et Jean-Baptiste, dans le prologue, joue un peu le rôle du présentateur. Il introduit Jésus, et ensuite, que fait-il ? Il disparaît. Il disparaît, puisqu'on nous dit au verset 14, donc au début du nouement du drame, on nous dit « après que Jean a été livré ». Donc Jean disparaît. Il va réapparaître ensuite, et c'est intéressant aussi, comme un élément de tension du drame, au chapitre 6. Dans l'épilogue, eh bien, il y a une caractéristique des drames antiques, Et ça se voit par exemple dans Médée de Ripide. Vous savez, Médée, c'est une histoire terrible, puisque c'est une femme qui a aidé un homme dont elle est tombée amoureuse, dont elle a eu des enfants, et quand on retourne en Grèce, au pays des civilisés, eh bien, Jason abandonne Médée, mais garde ses enfants, et donc Médée, pour se venger, que va-t-elle faire? Elle va tuer ses enfants. Bon, c'est terrible. Et à la fin, il y a une sorte d'apothéose. Médée est comme emportée au ciel par les dieux, par des anges, pour échapper en fait au châtiment que Jason était prêt à lui faire subir à cause de son, comment dire, de son infanticide. Voilà. Et bien, dans l'Évangile, c'est un peu la même chose. Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il n'apparaît pas. Si on en reste aux 8 premiers versets du chapitre 16, Jésus n'apparaît pas. On annonce sa résurrection, donc il est comme enlevé au ciel, il est comme il disparaît de notre perception sensible humaine, mais il est proclamé ressuscité par un autre messager. Alors dans Médée, c'est un peu différent, puisque Médée apparaît bien avec ses enfants morts, et elle échappe à son mari. Voilà. Toujours, l'épilogue est comme le prolongement surprenant de la mort. Jésus était mort, mis au tombeau, on cherchait à l'oindre. Il y a un problème aussi de Pierre qui a fermé le tombeau et qu'il faut réouvrir. Voilà. Et puis, le jeune homme s'est substitué au corps mort de Jésus, pour dire ce qui est trop merveilleux, trop exceptionnel, trop qui dépasse notre sensibilité. Voilà. Et quand on regarde ce que dit Aristote dans la poétique du drame antique, eh bien c'est toujours là la question de la reconnaissance du personnage. Qui est-il? Pourquoi fait-il comme ça? Pourquoi agit-il comme ça? Et on voit bien que tout l'évangile est construit autour de la reconnaissance de Jésus. Jésus comme fils de Dieu, Jésus comme Messie, et là aussi une progression dans la reconnaissance, et puis pour finalement l'accueillir comme ressuscité. Dans une forme de coup de théâtre, on peut dire. Et là aussi, il y a bien trois parties dans cet évangile, dans ce drame, hein, trois actes, on pourrait dire. Vous voyez que le prologue et l'épilogue sont relativement brefs. Entre 8 et 13 versets, c'est assez bref. Alors que les trois actes au milieu sont beaucoup plus longs à chaque fois. Le nouement du drame, bien, il y a déjà une tension qui monte autour de la personne et de l'action de Jésus. Au début, c'est surtout autour de l'action, mais évidemment, l'action de Jésus révèle qui il est. Le milieu du drame, le moment crucial de l'action, hein, au moment où il s'agit véritablement de reconnaître Jésus, mais aussi de s'apercevoir que les choses ne vont pas être aussi simples que ce qu'on aurait pu croire au début. Parce qu'au début, quand même, quand Jésus guérit des malades, il a un certain succès dans son ministère, et puis tout à coup, ça tourne au vinaigre. Hein. Et puis ensuite, la dernière partie, alors j'ai utilisé les mots grecs pour faire savant, catastasis et catastrophé. Hein. Catastasis, en fait, c'est un moment de tension maximum du drame, et la catastrophé, c'est le moment où la soupape est détendue et ça s'effondre brutalement. Hein, c'est le récit de la Passion. La catastasis, en fait, c'est les chapitres 11, 12, 13, où Jésus est confronté en direct aux autorités religieuses de Jérusalem, reconnu comme roi, mais en même temps prêt à être tué. Et puis ensuite, la catastrophe, c'est la catastrophe, littéralement, la catastrophe finale. On pourrait dire le drame dans le drame. Parce que les choses auraient pu, entre guillemets, les choses auraient pu se tourner un petit peu mieux, mais il se trouve que Jésus va aller jusqu'à la mort. Voilà. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut concevoir le récit. Maintenant, je vais vous proposer, vous êtes une quinzaine, donc il faudrait faire cinq groupes, idéalement.
3 ou 4. Et puis 13.
Voilà donc 5 parties et le groupe 1 par exemple pourrait lire cette première partie qui est la première moitié de la première partie et ainsi de suite. Et puis ensuite et repérer dans la lecture de cette partie tout ce qui peut être considéré comme l'annonce de la passion, l'annonce du drame qui va se passer à la fin. Et on va voir que la tension monte dans le récit. Donc il est 9h30, on pourrait se laisser jusqu'à 10h pour faire ce petit travail en groupe. Et ensuite, à 10h, on reprend. Voilà. Je ne sais pas comment composer les groupes. Marie et Cécile, faites un groupe. Le groupe 1, par exemple. Véronique et monsieur et madame, vous pouvez faire le groupe 2, par exemple. Fatima, sœur Pauline et Marie-Françoise, le groupe 3. Clotilde, Bénédicte, Monique et Eugène, le groupe 4. Parce que sinon Izumi se retrouve tout de suite. Donc peut-être Marido avec Izumi pour la partie 5. Ça ira. Et puis peut-être que du coup Eugène avec Izumi et Marido pour la cinquième partie. Voilà. Donc lecture en petit groupe pour repérer les moments où on parle, où on évoque la passion.